Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Il est écrit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et cela, c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul sous l'inspiration divine dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 8. Pour les incrédules, j'insiste là-dessus, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Pierre cite ici un passage d'Ésaïe, où il est écrit, et nous allons nous y reporter, à Ésaïe chapitre 8 et le verset 12, Ésaïe chapitre 8 et le verset 12. Ésaïe 8, 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Intéressant ces deux passages parce que dans ces passages, il est écrit que Dieu est une pierre d'achoppement. Aviez-vous pensé à cela? Bon, il est une pierre d'achoppement pour certains individus, pour les incrédules notamment. Dieu lui-même peut donc être une pierre d'achoppement, et c'est ce qu'il est pour les injustes, j'insiste. Mais pouvons-nous et devons-nous, nous autres chrétiens, être aussi des pierres d'achoppement? Et est-ce louable ou condamnable? La Bible parle de pierre d'achoppement, d'un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement est quelque chose qui fait chuter, qui fait tomber. Mais pourquoi? La pierre angulaire, choisie, précieuse, qu'est l'Éternel, était une pierre d'achoppement pour Israël du fait de sa rébellion. Où était le tort? Il se situait chez les incrédules, les injustes, les méchants, et non Dieu. En fait, la Bible, relatant l'histoire du peuple choisi, le tort se situait au niveau des Israélites, n'est-ce pas? Et Israël est endurci. Reportons-nous à Romains 11, Romains chapitre 11 et le verset 7, ce qui a fort à faire avec notre sujet d'aujourd'hui, les pierres d'achoppement. Que faut-il entendre par pierre d'achoppement? Est-ce que nous sommes supposés être des pierres d'achoppement? Ben, nous savons déjà que non. Dieu en est une pour les injustes, pour les méchants, mais nous, est-ce que nous pouvons être des pierres d'achoppement? Bon, C'est possible que nous le soyons, mais nous allons revenir là-dessus. Mais reportons-nous déjà pour commencer à Romains chapitre 11 et le verset 7. Romains chapitre 11 et le verset 7. Romains 11, 7. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, vous et moi, l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Le monde est endurci, il ne comprend pas. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui nous fait chuter? La vérité? Notre attitude? D'après le dictionnaire, une pierre d'achoppement, c'est un écueil, un obstacle qui nous fait trébucher, c'est une entrave. C'est quelque chose de négatif en général. Et dans l'idée de pierre d'achoppement, quand il est question des êtres humains, il y a l'idée de blâme, de condamnation, de culpabilité. Pour nous autres chrétiens, la pierre angulaire, choisie, précieuse, qu'est l'Éternel, n'est pas pour nous une pierre d'achoppement, n'est-ce pas ? Pour toute personne convertie qui a la foi et qui n'est pas incrédule, la voie divine est le point central de sa vie. Nous aimons Dieu, nous nous efforçons de toutes nos forces d'obéir à notre Dieu d'amour, de lui plaire, et il n'est jamais, lui, Dieu, pour nous, une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. En revanche, Dieu nous met en garde de ne pas être, nous, des pierres d'achoppement pour ses enfants en gestation, plus spécialement, et aussi pour ceux qui s'intéressent à lui, et dans une moindre mesure aussi pour des gens sincères qui peuvent être choqués par ce que nous faisons. Le monde peut être choqué et souvent choqué par ce que nous faisons ou disons. Là n'est pas la question. Christ en offensait beaucoup par la vérité et par son ministère. Il était pour beaucoup une pierre d'achoppement, non parce qu'il avait tort ou se comportait mal, mais parce qu'il était la pierre angulaire, choisie, précieuse, personnifiée de sa maison spirituelle, de son royaume. Il représentait la vérité, la justice, la voie divine. Et si les gens chutaient ou étaient scandalisés ou offensés, ils avaient tort. Et c'est toujours le cas. Comme on peut le lire dans Marc 6, 3, Jésus était effectivement pour ses concitoyens, et je cite le passage, une occasion de chute. Jésus était une occasion de chute, il était une pierre d'achoppement. Il y a donc deux aspects à la question. Comme le disait Paul, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 23. Ce dont nous devons nous soucier, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux que Dieu appelle et ceux qui s'intéressent à la vérité, qu'ils soient dans l'Église ou non. Reportons-nous à Luc 17, Luc chapitre 17 et le verset 1. Luc 17 et le verset 1. Luc 17, 1, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Pourquoi ? Parce que ce sont des scandales. Il n'y a jamais rien de positif dans un scandale. Et il continue, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on jette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Incidemment, cela ne veut pas dire que cette personne n'aura pas un jour sa chance, mais au moment où elle fait cela, il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas là. Et Christ parle ici de scandaliser un groupe qu'il appelle ses petits. De qui s'agit-il et qui met-il en garde ? Le monde ? Les inconvertis ? Non, ses disciples, vous et moi. Nous pouvons tous être scandalisés, Il y a beaucoup de scandales dans le monde, n'est-ce pas? On regarde par exemple dans l'univers politique, qu'est-ce qu'il y a comme scandale à tous ces niveaux? Scandale dans le gouvernement, scandale dans les églises, scandale ici, scandale. Il y a beaucoup de scandales. Mais dans certains cas, nous sommes scandalisés un peu trop facilement. Nous sommes un peu trop sensibles. Mais Christ nous dit d'être prudents à ce sujet, comme le disent les deux versets suivants. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, oh, vous vous rendez compte, 7 fois, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Il y a toute une attitude dans cette approche. Mais notez bien qu'il parle de ses disciples. Rappelez-vous que la Bible a été écrite non pas pour les gens du monde, ils ne la lisent pas. La Bible a été écrite pour nous, pour les disciples, pour les chrétiens, pour les vrais chrétiens. Et Christ parle à ses disciples et non à des inconvertis. L'idée de pierre d'achoppement peut être utilisée à tort, un peu comme une épée de Damoclès, comme une arme, contre quelqu'un qui ne nous plaît pas ou avec qui nous ne sommes pas d'accord. J'espère que vous me suivez. On peut être offensé à tort ou à raison, à juste titre. Et c'est de cela dont je voudrais parler aujourd'hui, la notion de notre tort, de notre culpabilité. Et cela se situe au cœur de la question que nous traitons aujourd'hui, celle des pierres d'achoppement. Nous devons bien prendre garde de ne pas scandaliser et faire chuter un enfant de Dieu ou une personne qui cherche à bien faire, convertie ou non, en nous comportant mal parce que Dieu nous juge, Dieu nous voit. Si nous faisons quelque chose de choquant, que ce soit même pour quelqu'un qui n'est pas converti, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour cette personne qui nous regarde, dit « Ah, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Oh, oui, alors là, hein. Je n'ai pas du tout envie d'être comme eux, comme elle, comme lui. » 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 1 Corinthiens 8, 9. 1 Corinthiens chapitre 8 et le verset 9. La Bible nous explique qu'est-ce que c'est une pierre d'achoppement et quand nous pouvons en être une, quand nous avons l'occasion d'en être une, si nous devons ou non en être une. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Sous-entendu, les faibles en la foi, parmi les appelés. Nous reviendrons sur ce point. Nous pouvons être une pierre d'achoppement sans que cela nous soit imputé, ou sans que ce soit condamnable, comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Si la personne offensée ou scandalisée n'est pas appelée, ne cherche pas à vivre chrétiennement, oh, elle sera offensée. Nous ne pouvons pas éviter de choquer certaines personnes, certainement pas le monde. Et à mesure que le temps passe et que nous nous rapprochons du temps de la fin, eh bien nous allons choquer encore beaucoup de gens, nous allons scandaliser encore beaucoup de gens. Mais ce qui est dangereux pour nous, c'est de scandaliser à tort, d'être une pierre d'achoppement, mais dans le mauvais contexte. Je répète qu'il y a une foule de païens ou d'inconvertis qui sont scandalisés par ce que font les vrais chrétiens. Et Dieu ne nous en tient pas compte, il ne nous condamne pas dans ce cas. Il ne nous tient pas responsables. Nous ne sommes pas coupables de péché quand notre comportement les choque, mais que notre comportement est juste devant Dieu. S'ils ne sont pas appelés, ils ne comprennent pas. Incidemment, nous autres chrétiens devrions être les derniers à être offusqués ou scandalisés. Nous devrions être patients, humbles, miséricordieux et ne pas nous empresser d'imputer de faux motifs aux autres. Personne ne devrait être pour nous une occasion de chute, car nos yeux sont fixés sur Christ et non sur des hommes, qui sont faillibles et ne comprennent pas toujours. Vous savez, quelquefois et même assez souvent, les gens nous disent « Oh ben regardez, il y a telle ou telle personne dans l'église qui fait telle ou telle chose ». Bienvenue dans l'Église de Dieu. C'est une Église d'êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Vous savez, au début, quand Dieu a commencé à m'appeler, je me disais, oh, l'Église, ça doit être rien que des gens parfaits. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Ben parce que nous ne sommes pas parfaits encore. Nous dirigeons vers la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Alors nous sommes choqués parfois, mais nous devons nous souvenir que si nous sommes choqués ou scandalisés, même par ce que font certains membres parfois, cela ne nous empêche pas d'obéir à Dieu. Christ dira un jour, par exemple, moi je pense souvent à cette image, quelqu'un qui dira un jour à Christ, « Oh ben j'ai quitté l'Église parce que hein, il y avait tel ministre ou telle personne qui faisait telle ou telle chose, et ça c'était pas juste. » Et j'entends déjà la voix de Christ qui dira, « Est-ce que moi, je t'ai abandonné? Est-ce que moi, j'ai fauté? Tu n'as pas d'excuse. » Nous autres chrétiens, nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. Et en ce sens, nous ne sommes pas scandalisés. Nous devons nous attendre à pas mal de choses, même de la part de membres. Et souvent, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas encore atteint un niveau de maturité spirituelle. Alors, ne nous attendons pas à des merveilles de la part des autres, concentrons-nous sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de travail à faire. Incidemment, nous autres chrétiens, nous devons être les derniers à être offusqués ou scandalisés, comme je le disais. Reportons-nous à l'évangile de Matthieu, où ce sujet est davantage développé. Examinons ce qui est écrit et notons bien le contexte. Le contexte est important. Matthieu chapitre 18 et le verset 1. Matthieu 18 et le verset 1. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Une question typiquement humaine. Vous savez, Dieu ne voit pas les choses comme ça, mais nous autres humains, nous avons toujours des petites cases un peu partout. Lui, il est plus élevé que l'autre. Lui, il est meilleur que l'autre. Lui, c'est le chef, l'autre, il se soumet, etc., etc. Dans le royaume, il n'y aura pas ces choses-là. Nous allons coopérer les uns avec les autres sans réellement toujours insister sur « Hey, moi je suis le chef, moi je suis en charge. » Jésus ayant appelé un petit enfant, alors il appelle un petit enfant. La question est posée, Jésus appelle un petit enfant, certainement la dernière personne à laquelle il s'attendait. Il la plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ouh! Ouf. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, il se rendra humble comme ce petit enfant. Voilà la caractéristique importante ici. Il sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais c'est une image ici, c'est une image. Il va aller plus loin, il va développer son thème. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, un de ces petits qui croient en moi. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est de ces gens-là que Christ veut parler. Il s'agit d'une catégorie bien précise d'individus, ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. Pas nécessairement des enfants. Il trace ici un parallèle. Christ, dans le contexte, nous dit de le recevoir comme un petit enfant, n'est-ce pas? Et il dit à ses vrais disciples d'être comme de petits enfants. Avoir cette humilité, cette gentillesse, cette douceur, cette pureté, ayant leur candeur, leur innocence, leur honnêteté. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Sous-entendu, dans ce contexte. Dans le contexte. Dans l'Église, parmi les appelés. Et au verset suivant, Christ élargit sa pensée et applique ce principe à ce qui nous fait chuter ou pécher, nous autres chrétiens. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et ici, il utilise une image. Il ne nous dit pas de nous couper la main ou de nous crever les yeux. Il y a longtemps que nous serions tous des aveugles et des estropiés. C'est une image qu'il utilise. En d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est débarrassez-vous de ce qui vous fait pécher, de ce qui est une pierre d'achoppement pour vous. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, même chose, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, sous-entendu la vie éternelle, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne, d'être détruit ultimement. Verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. De ces petits enfants qui ont le cœur pur et les nouveaux en la foi, ceux qui croient en lui. Car je vous le dis, je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Tout vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Il y a toute une mentalité dans cela. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits qui croient en lui, de ceux qui croient en lui, comme il l'a précisé plus haut. Et si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu gagnes ton frère, mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Et à nouveau, un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui invente, tu dis, je suis d'accord avec lui. Non, un témoin, c'est un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu personnellement. S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoin. Quelquefois, on se dit, oui, je suis témoin, je suis d'accord avec lui. Oui, mais si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas entendu, vous n'êtes pas un témoin, vous êtes un faux témoin. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et à ce moment-là, il devient, lui, une pierre d'achoppement, n'est-ce pas? Christ parle donc de ce qui nous fait chuter. Il y a deux aspects à la question. Premièrement, ce qui fait que nous sommes une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui croit en Dieu. Et deuxièmement, ce qui nous fait chuter spirituellement, nous. Ce qui nous fait pécher, nous, individuellement, personnellement. Dans le premier cas, nous sommes coupables de faire chuter un frère ou une sœur, et dans le second, quelque chose nous incite à pécher, nous fait chuter. Il faut bien comprendre quel aspect du sujet nous touche personnellement. À nouveau, il y a deux aspects dans celui des pierres d'achoppement. Dieu est une pierre d'achoppement pour les méchants. Nous sommes parfois des pierres d'achoppement. Mais nous ne sommes pas nécessairement coupables. Mais Dieu se soucie du moment où nous sommes une pierre d'achoppement et nous sommes fautifs. C'est là que nous devons mesurer le danger. Faire chuter quelqu'un révèle une façon de penser qui est contraire à la loi divine. On peut déjà lire, par exemple, dans l'Ancien Testament, ce qui suit. Lévitique 19,14, et je ne fais que citer ici. Lévitique 19,14, il est écrit, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Une pierre d'échappement, c'est un bloc, c'est quelque chose qui fait chuter quelqu'un. Pour placer quelque chose, un obstacle devant un aveugle qui ne voit pas, il faut avoir une drôle de mentalité, une mauvaise mentalité. Il est question ici de placer sciemment un obstacle devant un aveugle, de le faire tomber physiquement. Mais c'est une image et cela révèle de notre part de la méchanceté si c'est ce que nous faisons. Reportons-nous à Proverbe 24 maintenant, Proverbe 24 et le verset 15. Proverbe 24 et le verset 15. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être vous n'y avez pas pensé avant. On pense rarement à cette question de pierre d'achoppement. Mais c'est un sujet important. Proverbe 24, verset 15. Proverbe 24 et le verset 15. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Et ne dévaste pas le lieu où il repose. Dieu voit nos cœurs. Nous pouvons tromper les gens, nous pouvons tromper les ministres et autres, mais Dieu nous voit. Alors, qui trompons-nous? Nous nous trompons nous-mêmes si nous prétendons être ce que nous ne sommes pas. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et il n'est pas dupe. ne tend pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il se repose. Car cette fois le juste tombe, oh oui, et nous tombons. Nous ne sommes pas parfaits, nous péchons, nous tombons, nous, mais espérons de moins en moins. Il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Dieu est pour eux une pierre d'achoppement. N'oublions pas ceci. L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui t'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend le cri, leur cri et les sauve. Psaume 145. Psaume 145 versets 14 à 19. Mais revenons à l'idée qu'un vrai chrétien devrait être la dernière personne à être offusqué ou scandalisé par quelqu'un d'autre, par un membre, par quelqu'un d'autre. Reportons-nous à Psaume 119. Psaume 119, verset 165, et je voudrais lire ce qui est écrit dans la Nouvelle Bible Second, qui, à mon avis, traduit mieux ici. Psaume 119, verset 165. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Et rien ne peut les renverser. Rien ne peut les renverser, les offusquer, être des pierres d'achoppement pour eux. Ou, comme on peut le lire dans la seconde du 21e siècle, autre bonne traduction, rien ne les fait trébucher. Rien ne les fait trébucher. Pour ceux qui aiment ta loi. Intéressant, n'est-ce pas? Cela devrait nous décrire. Un vrai chrétien, c'est une personne qui est vraiment convertie, ne se laisse pas offusquer. Il est humble, d'une grande patience, miséricordieux, tolérant et plein d'amour pour son prochain. En quoi pouvons-nous être des pierres d'achoppement et de ce fait condamnables? Oh, il y a un certain nombre de situations, n'est-ce pas? Mais c'est de cela que nous devons nous soucier. Il y a diverses situations qui étaient typiques, par exemple, au 1er siècle et qui ne s'appliquent plus à notre époque, comme la consommation par des chrétiens de viande sacrifiée aux idoles, par exemple. Au 21e siècle, il est rare que ce soit un problème. Il y a toujours beaucoup d'idoles, certes, mais elles sont différentes. Et l'on ne sacrifie pas des animaux à ces idoles. Nous pouvons surtout être des pierres d'achoppement pour les nouveaux convertis, et c'est de là que nous devons être très prudents. Notez bien que dans ces situations, nous n'avons pas nécessairement tort, c'est-à-dire que nous ne faisons pas nécessairement quelque chose qui est injuste, mais si nous choquons un petit, un de ces petits qui croient en moi, comme disait Christ, là, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'un vrai chrétien a toute une mentalité, une façon de voir les choses. Il ne pense pas qu'à lui, à ce qu'il peut faire. Moi, j'ai le droit. Vous savez, aujourd'hui, on insiste beaucoup sur ses droits. C'est un droit, j'ai le droit d'avoir ceci, j'ai le droit d'avoir cela. Et on insiste beaucoup là-dessus. Christ n'insistait pas sur ses droits. Il ne pensait qu'au bien des autres. Et c'est cela que nous devons faire aussi. Nous devons être patients, charitables, ne pas insister sur notre propre volonté. Cela demande une certaine humilité, une certaine dénégation et une certaine maturité de notre part, n'est-ce pas? Pensez à Christ qui disait, et je pense toujours au dernier moment, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça devrait être une devise pour nous. Que ta volonté soit faite. Pas la mienne. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire, je voudrais bien faire telle ou telle chose, mais est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que cela va édifier? Ou est-ce que cela va choquer? Si, par exemple, nous consommons de l'alcool, hein, et nous devons nous assurer que cela ne scandalise personne, et surtout pas un nouveau converti. Il se peut que nous ayons à nous priver d'alcool, surtout si nous l'invitons chez nous. Si nous regardons une émission ou un film où il y a des blasphèmes, des jurons et de la nudité, ou que nous écoutions un chanteur ou une chanteuse chantant des paroles contraires à la bienséance, nous devons nous assurer que cela n'est pas une pierre d'achoppement pour notre entourage, notamment pour un frère ou une sœur en la foi. Et à nouveau, je répète ici que c'est surtout, on risque surtout d'être des pierres d'achoppement pour les nouveaux convertis, pour les chrétiens. Mais pensez aussi que cela arrive quelquefois. Nous pouvons être des pierres d'achoppement pour quelqu'un qui n'est pas encore appelé et qui va juger Dieu autrement qu'il le devrait parce que cette personne nous voit agir d'une certaine manière. À ce moment-là, nous devenons une pierre d'achoppement et Dieu le voit. Notre manière d'observer le sabbat peut être légitime aux yeux de Dieu, mais elle peut offusquer quelqu'un qui est faible dans la foi. La Bible nous fournit des directives sur la manière d'observer le sabbat, mais nous ne voulons pas devenir comme les pharisiens non plus. Certaines personnes lavent la vaisselle le jour du sabbat, d'autres laissent les assiettes s'empiler. Certains font leur lit, d'autres pas, certains font une petite marche. D'autres préfèrent s'abstenir. Si cela vous donne mauvaise conscience, ne le faites pas. Dieu a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Gardons-nous d'offenser injustement qui que ce soit. À nouveau, nous devons penser aux autres, cesser de penser à nous-mêmes. Nous pouvons évidemment être des pierres d'achoppement par ce que nous disons. Il y a certains propos qu'un chrétien ne devrait pas tenir. On nous observe et l'on prend note de ce que nous disons ou faisons. Si quelqu'un du monde, un inconverti, sait que nous sommes chrétiens et nous voit faire quelque chose qui est mal, cela peut le dissuader de devenir chrétien et cela lui donne une mauvaise idée de Dieu. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Ah, ton prochain. Intéressant. Ton prochain. Pourquoi ? Parce que cela le scandalise. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Même dans l'Église, il y en a qui répandent des calomnies, qui racontent des bêtises. Ils disent des choses qui ne sont pas. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Lévitique 19 et les versets 15 et 16. Lévitique 19, versets 15 et 16. Bon, il y a certaines professions ou certains emplois qui ne conviennent pas à un chrétien. Comme travailler pour les services secrets. Travailler pour les services secrets, ben, vous allez devoir probablement tuer quelqu'un. Tuer pas mal de gens. Alors, on regarde les James Bond, on regarde certains films, et puis, bon, c'est intéressant, mais, enfin, intéressant pour certains, mais ce n'est pas le genre de carrière qu'un chrétien doit avoir. Dans certaines professions, pour réussir, il faut mentir. Ah, nous avons des vendeurs, par exemple. Bon, je ne veux pas dire que tous les vendeurs ne sont pas des chrétiens, mais, vous savez, quand vous êtes un vendeur, souvent, pour essayer de vendre la marchandise, vous allez devoir mentir ou essayer de présenter le sujet ou l'objet pour ce qu'il n'est pas. Si nous transportons un membre ou un nouveau converti dans notre auto et que nous fassions des excès de vitesse ou ne respectons pas le code de la route, nous allons être pour lui ou elle une pierre d'achoppement. Si nous sommes malhonnêtes ou mentons ou faisons de faux témoignages et qu'un membre le voit, nous sommes une pierre d'achoppement. Le tort est à nous. C'est nous qui avons tort et Dieu voit tout. Ah, il y a beaucoup d'autres exemples, probablement même peut-être de meilleurs exemples que ceux que je vous ai cités. Si nous faisons quelque chose qui choque ou scandalise l'un de ces petits qui croient, cela donne une mauvaise réputation à l'Église. En nous voyant, un nouveau converti peut se dire, si c'est le genre de chrétien qu'il y a dans cette église, c'est pas ce que je recherche, j'irai ailleurs. Ou si c'est cela, être chrétien, cela ne m'intéresse pas. Et quand nous sommes des pierres d'achoppement, nous écartons les gens de Dieu. Nous les empêchons d'avoir avec lui une relation. Cela me fait penser à ce que certains de nos membres affichent sur les médias sociaux, comme Facebook ou Twitter. Les commentaires qu'ils font, les images qu'ils affichent, c'est parfois choquant, pour ne pas dire scandaleux. Et là, nous avons des membres, ce sont des membres de l'Église. Je ne généralise pas, mais j'ai vu personnellement des choses. Je ne suis plus sur Facebook, j'ai laissé tomber il y a plusieurs années. Mais faites attention à ce que vous affichez, à ce que vous dites. Un nouveau converti est facilement choqué par ce qu'il voit et entend dans l'Église. Comme par exemple, regardons 1 Jean chapitre 2, verset 4. 1 Jean chapitre 2 et le verset 4. 1 Jean 2, 4. Nous devons être conscients de ce que nous faisons, de notre comportement. Il y a trop souvent, encore trop souvent dans l'Église, des pierres d'achoppement. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes de lui. De qui sommes-nous ? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dieu condamne l'hypocrisie. Et à nouveau, j'insiste sur le fait que nous pouvons tromper n'importe qui. Mais Dieu, lui, y voit tout. Il voit qui nous sommes. Il voit si nous sommes des hypocrites, si nous sommes des voleurs. Il voit si nous croyons en lui. Il voit tout cela. Je me demande parfois, mais qu'est-ce que les gens ont dans la tête parfois? Je ne généralise pas, n'allez pas croire que c'est un gros problème dans l'Église. Mais je cite simplement des cas. Et il y en a, de temps à autre, parfois, des gens qui viennent parmi nous et qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Dieu voit tout. De qui vous moquez-vous? Nous devons être prudents dans la manière dont nous jugeons et souvent condamnons même les gens du monde. Nos évaluations doivent refléter les pensées de Christ. Nous pouvons être des pierres d'achoppement quand nous faisons de la politique. La politique divise les membres. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais ici en Amérique, avec la situation politique actuelle, Les membres sont divisés. Parfois, ils se laissent influencer trop par la politique. Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et mon royaume à moi n'est pas de ce monde non plus. J'espère que le vôtre ne l'est pas non plus. Mais malheureusement, la politique encore est une pierre d'achoppement pour plusieurs. Nous devons avoir les pensées de Christ. Proverbe 24, verset 17. Proverbe 24, verset 17. À nouveau, je ne fais qu'effleurer le sujet. Pensez, réfléchissez à ce que vous faites, à ce que vous dites, à votre comportement. Est-ce qu'il est possible que vous soyez une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur, même de longue date, mais surtout pour un nouveau converti, pour les nouveaux? Dieu voit tout. Il n'est pas dupe. Proverbe 24, verset 17 à 20, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. On parle de cela quand on parle politique souvent. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Un jour ils comprendront, la plupart des êtres humains ne savent absolument pas ce qu'ils font. Ils vivent instinctivement, ils pensent sans même réfléchir, ils ne savent pas. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Vous savez, vous avez la vérité, nous avons la vérité, nous savons. Mais soyons prudents de ne pas juger les gens du monde, même ceux qui sont dans des postes importants. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint et elle s'éteindra tôt ou tard. Mais la plupart de ces gens-là vont être convertis un jour. Nos propos peuvent choquer ou scandaliser des membres de longue date aussi. Nous pouvons aussi être des pierres d'achoppement dans la manière dont nous nous habillons. C'est surtout un problème chez les femmes, qui portent parfois des vêtements provoquants, sexuellement aguichants, ou qui ne sont pas assez habillées. La femme chrétienne doit être modeste. Dans l'Église de Dieu, nos dames doivent être proprement vêtues. Certaines de nos dames ou de nos jeunes filles en révèlent un peu de trop. Ce sont des pierres d'achoppement ou une occasion de chute pour les messieurs. Surtout en Occident. Jean chapitre 2 et le verset 10. 1 Jean 2:10. Celui qui aime son frère, et j'espère que c'est le cas de nous tous, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Pour ne pas être des pierres d'achoppement, nous devons nous effacer et ne pas insister à ce que les choses soient faites à notre façon, quand nous sommes en présence de quelqu'un qui est faible en la foi. Nous devons nous soucier de l'autre, faire preuve de bienveillance à son égard et lui donner le temps de croître. Nous devons, comme Paul l'a écrit, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres, avec amour. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3. Éphésiens 4, versets 2 et 3. Reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens 10, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Bon, Paul ici parle des Grecs ou des non-israélites. Hein, c'était la manière de s'exprimer à l'époque. Il y avait les Juifs et il y avait les païens, les non-israélites, les Grecs. Hein, c'était le monde grec, tout le monde parlait grec. Alors les Grecs, c'était les païens, les non-israélites. Donc, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Alors, il parle des Grecs ou des Israélites, puis des Juifs qui sont loin d'être tous convertis, puis de l'Église de Dieu. Il parle de trois groupes ici, trois groupes d'individus. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, chapitre 11, verset 1, comme je le suis moi-même de Christ, 1 Corinthiens 10, verset 32 et le chapitre suivant. Verset 1. Autrement dit, un chrétien ne devrait être une pierre d'achoppement pour personne. Et s'il l'est, ce devrait être uniquement quand un inconverti l'accuse faussement ou rejette Dieu. Comme je le disais il y a quelques minutes, manger des viandes sacrifiées aux idoles n'est pas un problème pour nous au XXIe siècle. Mais le principe que Paul développe dans 1 Corinthiens 8, 10 à 13 est toujours valable. Le principe est toujours valable. 1 Corinthiens 8, verset 10, hein, il est écrit « Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, hein, toi qui es dans l'Église depuis des années, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ?» Et le même principe s'applique quand on vous voit regarder un film où il y a de la nudité, ou des jurons, ou des propos blasphématoires, ou quand nous fréquentons des gens au caractère douteux. Et ainsi, le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Et plutôt que de généraliser, Paul revient ici sur le principe en se concentrant surtout sur les membres, nos frères et sœurs en la foi. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Une fois de plus, qu'est-ce qui nous motive ? Christ a donné une description de ses vrais disciples au fil des siècles. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'était Matthieu 5, versets 13 à 16. Telle croit pouvoir manger du tout, telle autre qui est faible ne mange que des légumes. Bon, ça c'est individuel. C'est individuel. Ne soyons pas des pierres d'achoppement en essayant de forcer nos idées à nous. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Sous-entendu, il est question de ne mange pas telle ou telle chose. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Nous avons des végétariens dans l'Église et Dieu n'y voit aucun inconvénient. Recherchons l'amour. Recherchons l'amour. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est un point important de ce sujet sur les pierres d'achoppement. Pensez aux autres en leur donnant la priorité. Ça, c'est difficile parce qu'humainement, nous cherchons à satisfaire le moi, n'est-ce pas? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est une belle façon d'enrober ce principe. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'insistaient pas sur sa façon à lui de voir les choses, mais sur ce qui était, sur ce qui édifiait. Romains 14 et le verset 5. Romains 14. Et à nouveau, c'est un principe. Bon, il n'y a plus la même situation aujourd'hui, en ce 21e siècle, mais le principe est toujours le même. Romains 14, verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, deux façons de voir les choses, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et incidemment, il ne parle pas ici du sabbat ou des jours saints. Le contexte de tout le chapitre ici n'est pas celui du respect du sabbat et des jours saints. Quelquefois, on vous fait dire ce que ce chapitre ne dit pas. Il est question d'aliments et apparemment de ce que certains mangeaient certains jours. Il est question de tolérance et de la nécessité de ne pas froisser, de ne pas scandaliser. Celui qui distingue, verset 6, entre les jours, agit ainsi pour le Seigneur. Il le fait de tout son cœur, sincèrement. Celui qui mange, voyez le nombre de fois il est question le mot manger ou aliment dans tout ce chapitre. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange. Alors à nouveau, le contexte est celui de notre alimentation, de ce que nous mangeons. C'est cela le contexte de tout le chapitre. Car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, sous-entendu de la viande. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Intéressant ce concept à nouveau. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous lui appartenons. Nous ne cherchons pas à faire ce qui nous plaît, à faire notre volonté, mais la volonté de notre Père Céleste. Car Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 13, ne jugeons donc plus les autres, Donc, plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et à nouveau, j'insiste sur le fait, si vous lisez tout le restant de tout ce chapitre est sur les aliments. Il n'est pas question des fêtes divines ou autre chose. Il est question des aliments, c'est le contexte de tout le chapitre. De Timothée, chapitre 2, verset 15. De Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Comment est-ce que nous dispensons la parole de la vérité? Quels sont nos propos? Quelle impression est-ce que nous donnons dans ce que nous disons? Quels sont nos propos? Évite les discours vains et profanes. Oh, les discours vains et profanes. Vous savez, avec la politique qui en ce moment, tout est politisé, et il y en a des discours vains et profanes. On dirait qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont incompétents sont ceux qui affichent toujours quelque chose. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais il faut qu'ils racontent quelque chose. Des inepties la plupart du temps. Alors, évite les discours vains et profanes. Quelquefois, nous aussi, nous avons des discours vains et profanes dans l'Église. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui étaient apparemment des membres de l'Église, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Autrement dit, qui sont des pierres d'achoppement, qui font chuter des membres. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et que c'est vrai. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il sait qui sont les vrais chrétiens. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. À nous de décider quel genre de vase nous allons être. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Ah, et qu'il y en a, des discussions folles et inutiles. Et même parmi nous parfois, sachant qu'elles font naître des querelles, qu'elles divisent, qu'elles sont des pierres d'achoppement. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5 et le verset 13. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Comme je le disais, parfois, c'est pas que nous avons tort, mais si nous sommes en présence de quelqu'un qui est faible dans la foi, même si nous n'avons pas tort, si nous devenons une pierre d'achoppement, là nous avons tort. Nous devons nous souvenir de ce que Paul a aussi écrit dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bon, s'il y en a qui changent, il n'y a pas de problème. Quand la vérité leur sera révélée, il faudra qu'ils changent. Il n'y aura pas dans le royaume de Dieu ces genres d'individus. Il n'y aura pas d'impureté dans le royaume. Alors il faudra qu'il change. Et c'est là ce que vous étiez, il parle aux Corinthiens ici, c'est là ce que vous étiez, vous, les Corinthiens. Quelques-uns d'entre vous, pas tout le monde, mais quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul n'insistait pas à ce que les choses soient faites à sa façon. Il était toujours prêt à s'effacer dans un esprit de charité. Nous pouvons nous inspirer de son attitude. 2 Corinthiens 6, verset 3. 2 Corinthiens 6 et le verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Ici, bon, ça s'adresse à un ministre, c'est vrai, plus spécialement, mais aussi à tous les membres. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Est-ce notre cas? Dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Quelle réputation donnons-nous lorsque nous faisons le mal? Faisons quelque chose de mal lorsque nous sommes des pierres d'achoppement, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. En guise de conclusion, il est écrit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, en parlant de Dieu. 1 Pierre 2,7, c'est ce que nous avons lu en début de message, en parlant de Dieu et de sa vérité. Mais comme nous l'avons vu, nous sommes parfois des pierres d'achoppement pour notre entourage nous-mêmes. Et là, ce n'est pas bon. Parfois, c'est inévitable. Surtout parmi les inconvertis et les méchants. Mais la Bible dit aussi clairement que nous pouvons, à tort, être coupables et par conséquent condamnables de faire chuter d'autres êtres humains. Et cela, nous devons à tout prix l'éviter et nous en repentir sincèrement quand nous le faisons. Nous devons nous comporter en vrais chrétiens. Je voudrais que nous reportions pour terminer à 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous revenons à Pierre et nous continuons sa pensée. Nous avons fait une sorte de cercle. Nous revenons un peu au point de départ, mais nous continuons ses propos. Que dit-il? Que dit Pierre? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, il parle des convertis, des appelés, de nous, de vous et de moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment? En agissant en vrai chrétien, sans être des pierres d'achoppement. C'est comme cela que nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Alors voyez ici, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, nous sommes responsables, Nous ne devons pas agir en chrétien juste quand nous sommes à l'église. Le monde, lorsqu'il nous voit, doit faire une différence. Ces gens-là sont différents. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera, au jour où il les visitera, au jour où Dieu ouvrira leur esprit et là, ils comprendront la vérité. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Oh, ce n'est pas toujours facile d'honorer le roi. Sous-entendu, le roi, bon, il y a beaucoup de, nous n'avons plus beaucoup de rois aujourd'hui. Sous-entendu, honorer ceux qui ont des postes de responsabilité, ce n'est pas facile. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelquefois, nous ne souffrons pas injustement. Nous souffrons parce que nous avons fauté, parce que nous sommes une pierre d'achoppement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et il est bon que nous suivions son exemple et que nous regardions quel exemple il nous a laissé. Les évangiles sont formidables pour cela. Ils décrivent Christ, quel genre d'individu il était. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Est-ce que nous vivons pour la justice? Je l'espère, je le pense, je le crois. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez autrefois comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Puisse ces paroles nous décrire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite à tous bon courage, et je vous dis au revoir et à bientôt.